On est très heureux d'être parmi vous pour ce week-end. Et nous allons parler donc d'un livre et d'un homme qui lui-même a appris beaucoup, beaucoup de leçons. Et pourtant, si quelqu'un n'avait pas trop besoin d'être enseigné, on pensait que ce serait Job. Car selon Dieu, c'était l'homme, il n'est pas parfait, mais il était le plus intègre de tous les hommes de la terre à son époque. Et donc, nous allons étudier un peu le livre, le personnage, l'époque. Ils avaient d'étonnantes connaissances scientifiques aussi, mais on va les survoler puisqu'on n'aura pas le temps d'entrer dans toute la partie scientifique du livre Job. Mais bien sûr, le sujet, la souffrance, l'épreuve, et un peu tous les tenants et les aboutissants de cette question-là concernant Job et les leçons que nous apprenons de lui. Donc, on l'ouvrira quelquefois la parole, mais c'est plutôt style conférence, plus qu'une étude biblique. Quand on ouvre le livre de Job, peut-être sans le savoir, nous ouvrons sans doute le livre le plus ancien de tous les livres de la Bible, à l'exception des 11 premiers livres, chapitres de la Genèse. Sans doute, les généalogies, les 11 premiers chapitres étaient écrits et conservés. Mais Job doit être le premier livre complet qui a jamais été écrit, qui figure dans la Bible. Le livre de Job a été trouvé parmi les rouleaux de la mer morte, donc c'est quand même quelque chose. Le livre de Job fut reconnu comme inspiré de Dieu et inclus par les Juifs dans le canon des 39 livres qui composent l'Ancien Testament. Et donc, le livre de Job nous permet de savoir qu'à une époque très ancienne, les hommes éminents reconnaissaient qu'il y avait un seul Dieu, tout-puissant et créateur du monde. Parfois, on pense que c'est avec Abraham qu'on a finalement compris qu'il y a un seul Dieu, mais avant, tous les hommes étaient panthéistes ou polythéistes. Non, Job et ses amis savaient qu'il y avait un seul Dieu. Tous les personnages qui s'expriment dans le livre affirment leur croyance qu'il y a un seul Dieu. Le créateur du monde. Luc est le seul auteur non-juif de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais Job est sans doute le seul auteur non-juif de l'Ancien Testament. Il n'était pas juif et pourtant son livre se trouve dans la Bible. Il a sans doute vécu aux environs de l'époque d'Abraham. Quand on ouvre le livre que l'on lise même en français, dans n'importe quelle langue, ou même en hébreu, on reconnaît que le livre lui-même est un chef-d'œuvre littéraire. Tous ceux qui se penchent sur le livre disent c'est extraordinaire d'avoir une telle littérature, un tel niveau littéraire. Les discours dans le livre de Job sont extrêmement éloquents, sont très détaillés, ils sont remplis d'allusions à toutes sortes de domaines. On y traite autant de la géographie que de l'histoire, de la science, des minéraux, des plantes, des animaux, de toutes sortes. En même temps, les discours sont très philosophiques. Il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de logique. Tout est bon, c'est très précis. Et le livre fourmi de détails sur la nature montre une vaste connaissance. C'est étonnant, ces hommes, ce qu'ils connaissaient par exemple sur l'astronomie, sur la physique, sur les minéraux, les plantes et les animaux. Je sors d'un rhume qui a duré un mois. Donc parfois j'ai les quintes de tout, j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Mais ce qui est le plus curieux dans le livre de Job, c'est la manière dont le livre se termine. Pratiquement tout le livre est composé de discours sur la raison de la souffrance. Pourquoi Job souffre-t-il? Lui ne sait pas. Mais ses soi-disant amis, eux, ils savent pourquoi il souffre. C'est parce qu'il a péché, tout simplement. Et quand Job plaide son innocence, il dit, en plus d'être un grand pécheur, tu mens. C'est pire. Arrête de mentir et confesse tes péchés secrets. Et là, Dieu te guérira. C'est comme ça qu'il le traite. Alors, on pourrait penser que quand Dieu intervient, puisqu'on parle que de la souffrance pendant 35 chapitres, que Dieu va dire le fin mot de l'histoire, voilà pourquoi vous souffrez. Dieu intervient Il a un discours de 4 chapitres, il ne mentionne même pas le sujet de la souffrance. Il commence à parler de la création. Et il interroge Job sur toutes sortes de détails sur la création. Comment, est-ce que tu sais comment j'ai fait le circuit de l'eau? Est-ce que tu sais comment j'ai fait les grands animaux? Est-ce que tu sais comment j'ai mis les étoiles? Et puis il lui pose des questions. On aurait dit, on va dire, un juré de baccalauréat qui a mal tourné. Hein, parce que le Seigneur lui pose plein de questions et pauvre Job, et le Seigneur ne laisse même pas le temps de répondre. Et réponds-moi, et réponds-moi. Et on dit, mais franchement, mais... Avec tout ce que Job a souffert, on dirait que l'Éternel veut encore le faire souffrir un dernier coup. Mais en fait, en ne traitant pas le sujet de la souffrance, Dieu apporte la réponse à la question de ces hommes sur la souffrance, tout en ne la mentionnant pas. C'est ce qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, la réponse de Dieu, si nous l'analysons, nous permet d'accepter la souffrance. Déjà, l'accepter comme étant quelque chose que Dieu permet et d'en extraire tout le bénéfice et toutes les leçons que la souffrance peut nous apporter. On va donc parler du personnage principal, Job. Alors, à première vue, on ne sait pas grand-chose de lui. Mais on va voir un peu, assez pour savoir un peu qui il est et l'apprécier à sa juste valeur. Nous lisons dans le livre de Job, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est maigre comme notice biographique. Il s'appelle Job, il habite le pays d'Utz. Alors, quand est-ce que Job a vécu? Rien qu'avec le pays d'Utz, on a quelques indices. D'abord, Job a dû vivre entre le déluge et l'appel d'Abraham. On va dire entre 2005 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Comment peut-on penser que c'est si ancien? D'abord, dans tout le livre, il n'est nulle mention du peuple d'Israël, ni d'aucun patriarche comme Abraham, Isaac ou Jacob. Parce que dans tout le restant de la Bible, depuis Genèse 12 jusqu'à Malachie, on ne parle que du peuple d'Israël, des patriarches, Moïse, les commandements, les lois de Dieu. Enfin, tout est centré autour de ce peuple d'Israël. Mais dans le livre de Job, il n'y a nulle mention d'aucun personnage de ces gens-là. Nulle mention n'est faite des 10 commandements ou du mont Sinaï. Donc, on peut penser dans la parole, si on ne fait aucune mention de ça, ça a pu avoir lieu avant Moïse. Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Mais, et en lisant Job et en lisant Genèse, on commence à comprendre Dieu n'a pas attendu l'époque de Moïse pour donner des commandements. Il est vrai qu'il a donné 10 commandements officiellement sur le mont Sinaï. Mais Dieu a fait connaître des lois divines à des hommes vivant bien avant la période de Moïse. Par exemple, en Genèse 26, verset 5, écoutez bien, l'Éternel dit, « Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Vous dites, « Ah non, je vais reprendre la vie d'Abraham, je vais trouver ses statuts, ses lois et ses ordonnances. » Vous ne les trouvez pas. C'est plutôt la biographie d'Abraham. Mais Dieu dit, je lui ai donné toutes ses lois, ses statuts, et il les a bien observées. Job connaissait aussi ces mêmes lois. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Nous sommes sans doute bien avant les 10 commandements et le mont Sinaï. Job 23, verset 12. Les amis de Job connaissaient aussi les instructions de Dieu. Eliphaz, un de ses amis, dit à Job, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Comment ces hommes pouvaient-ils connaître les instructions et les paroles de Dieu? Mais Dieu nous a révélé ce que nous devions savoir. Mais Dieu ne nous a pas tout révélé. La Bible n'est pas un livre d'histoire exhaustive. On n'a pas tous les détails. Mais à travers ces mentions, nous savons que Dieu avait communiqué avec les hommes Pensons à Enoch. On ne sait pas grand-chose de lui en Genèse, sauf qu'il a marché avec Dieu et qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais dans le livre de Jude, on découvre le message d'Enoch. Et donc, Dieu avait pleinement révélé sa volonté à des hommes dès le début. Avant la loi de Moïse, Dieu avait confié, quand il a confié les sacrifices à la tribu de Lévi, ça vous êtes au courant. Avant ça, c'était le chef patriarcal de chaque famille qui servait un peu de sacrificateur pour la famille. Et il faisait des sacrifices pour lui-même et pour les siens. On sait qu'Abraham faisait des sacrifices régulièrement, dressait un autel, avait un contact avec Dieu. On sait que c'est la pratique de Noé qui a dressé des autels et qui adorait Dieu de la part de sa famille. Job et ses trois amis faisaient la même chose. Regardez en Job 1, verset 5. Après la fête, quand les 10 enfants de Job faisaient la fête chez l'un d'eux, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Voilà un homme qui offre des holocaustes à l'Éternel. Donc cette pratique existait déjà depuis juste après le Jardin d'Éden, quand Abel et Caïn ont offert chacun leur sacrifice et Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Donc depuis déjà la deuxième génération des hommes, on offrait des sacrifices à l'Éternel. Et donc Job le fait, comme Abraham l'a fait. Peu de temps après le déluge, les enfants ou les nations nées des enfants de Noé ont basculé rapidement vers la superstition, vers l'idolâtrie et vers le polythéisme. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens se détournent de l'Éternel. Par exemple, quand ils ont construit la tour de Babel était plus exactement une sorte de ziggurat. Vous savez, c'est grand, on faisait des très grandes tours dans la vallée de Sumer, dans le croissant fertile, près du jardin d'Éden, entre le Tigre et l'Euphrate. On faisait des grands monuments circulaires et on montait comme ça à l'extérieur, comme la tour de Babel. Et au-dessus, on mettait des signes astrologiques. Donc l'astrologie existe depuis le tout début de l'histoire humaine. Cela a commencé surtout avec Nimrod. Et si on étudie un peu l'histoire de Nimrod, on se rend compte que c'était le premier empereur, l'homme qui a inventé l'idée de la cité fortifiée, ce qui permettait aux populations de pouvoir être dans les villes fortifiées où aucune bête sauvage ne pouvait les atteindre, ce qui leur permettait de se livrer à toutes sortes d'ivrognerie, de plaisir, même coupable, et ne pas craindre que des ennemis viennent ou bien que des bêtes sauvages viennent les tuer. Et donc c'était... Et puis la couronne que l'on place sur la tête d'un roi rappelle les fortifications d'une ville fortifiée. Et donc toute cette idée de royauté, d'empire, de ville fortifiée a commencé avec Nimrod. Et nous savons que Nimrod et Semiramis, sa femme, c'est, on va dire, le couple alpha, le premier couple qui a vraiment initié toute la mythologie grecque, etc., c'est-à-dire la Vierge et l'enfant dans le christianisme vient de la déesse de la fertilité et son enfant. Et donc tout ça remonte à Nimrod et Semiramis. Donc c'était à cette époque-là que toute la superstition a commencé. Mais vous remarquez que Job et ses amis ne sont pas du tout affectés par le polythéisme, par la superstition, par l'astrologie. Ils n'en sont pas atteints. Ils parlent tous d'un Dieu unique. Les quatre hommes parlent de Dieu et pourquoi Dieu fait ci, cela. Et ils ont leurs idées, hein, mais ils ne parlent pas des dieux, des déesses, les forces cosmiques ou quoi que ce soit. Il y a Melchizedek, sacrificateur du Dieu très haut, qui vivait dans la ville de Salem, en Canaan, près de Jérusalem, au moment où il rencontre Abraham. Job ne vivait pas très loin de là. Job a vécu 140 ans après son épreuve. Quand on revient dans le dernier chapitre de Job, on découvre que tout ce qu'il a perdu, Dieu lui en a redonné le double. Donc, si Dieu lui a redonné le double de tout ce qu'il avait avant, il n'a pas donné le double d'enfants. Il avait 10 enfants, Dieu ne lui en a pas donné 20 de plus, mais il lui en a donné 10 de plus, parce que les âmes sont immortelles. Donc, il a doublé l'enfant, 20 enfants. Mais si Dieu a doublé le nombre d'années, il peut être que Job a eu son épreuve à 70 ans, et puis il a vécu 140 ans de plus, ce qui était tout à fait normal à cette époque-là. Abraham a vécu dans plus de 200 ans, il se peut que Job ait vécu 210 ans. Mais nous arrivons donc à l'époque d'Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, le pays d'Utz, c'est où le pays d'Utz? Ce nom est associé au territoire appelé par la suite Édom. Édom, Ésaü. Et ça correspond à la Jordanie actuelle, c'est-à-dire cette partie de la terre qui est à l'est de la mer Morte, en coin assez désertique, on va dire au sud-est de la territoire, du territoire d'Israël aujourd'hui. Et en Lamentations 4, verset 21, nous lisons « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Utz. » Donc, la preuve que le pays d'Utz correspond au pays d'Édom. Du temps d'Abraham, cette terre, la mer Morte, la région de la mer Morte, toute cette vallée, tout ce coin particulièrement désertique aujourd'hui, était absolument fertile et verdoyant. Nous le savons parce que du temps de Lot, Lot est allé s'établir dans cette vallée. Et quand Dieu a détruit Sodome et Gomorre, donc par le feu et le soufre, il a donc détruit toute cette magnifique vallée fertile et il est resté la mer Morte, remplie de soufre, remplie de sel, remplie de mort et tout à fait sec. Donc, avant que Dieu n'ait détruit la ville de Sodome, c'était un magnifique territoire. Alors, du temps de Job, comme il vivait près de la Jordanie, dans ce coin-là, et qu'il avait beaucoup de ruminants, beaucoup, beaucoup de chameaux, beaucoup d'animaux, on ne peut pas imaginer qu'autant de bétail puisse pâturer dans le territoire comme il est aujourd'hui. Donc, il a dû vivre là, peut-être un peu avant Lot, et c'était là où il vivait, dans le pays d'Édom. Et donc, il y avait deux personnes qui s'appelaient Utz. Vous avez Abraham, qui est un araméen. Il a pu donner son nom au pays. L'autre personnage est un descendant des Horiens. Les Horiens, c'est un peuple qui a vécu en Édom entre le déluge et l'arrivée d'Ésaü et sa descendance. Donc, les Horites vivaient dans ce coin. Après, Ésaü est arrivé et ils ont occupé le territoire d'Édom. Alors, vous dites, ok, c'est un livre ancien. Job est donc, il habite dans ce coin, pas très loin du futur pays d'Israël. Ce n'est pas un juif. C'est un homme qui connaît un Dieu unique, qui l'adore, qui fait des sacrifices régulièrement. Quel était son caractère? Quel est le caractère de Job? Et nous le voyons dans le verset 1, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Aujourd'hui, on se contente de dire, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois que Dieu existe. Même nous, les chrétiens évangéliques, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Oui, est-ce que vous avez reçu Christ comme votre sauveur? Oui, est-ce que vous trouvez, est-ce que Dieu est saint? Ah, Dieu est saint. Est-ce que vous en tenez compte dans votre vie quotidienne? Je crois que Dieu est saint, mais moi, je suis loin de l'être. Et si on est honnête, je suis loin de vouloir l'être. Il y a bien des choses dans ma vie que je veux conserver. Là, on a quelqu'un qui est tellement sincère, intègre, entier, droit, qui dit, si Dieu est saint, il faut que je le sois aussi. Et donc, je me détourne du mal. Dès que je vois que c'est mal, je m'en détourne. Noé était intègre également. La Bible dit que Noé était intègre en son temps. Donc, vous avez des personnages dont la Bible dit, cet homme, et il donne plutôt l'impression que cet homme est uniquement cet homme, était intègre sur la terre à ce moment-là. C'est pour le cas, Noé, c'était le cas. Il était le seul homme intègre sur la terre à son époque. D'ailleurs, les autres ont fini, ils ont péri dans le déluge parce qu'ils ne croyaient pas Dieu et ne sont pas venus dans l'arche. Enoch, en chapitre 5, verset 21 de la Genèse. Enoch est un homme intègre. Il marche avec Dieu, se détourne du mal. Seth, chapitre 4, verset 26 de la Genèse, est un homme intègre. Quand à sa naissance, les gens commencent à invoquer l'Éternel. Donc, il est dans cette lignée-là. Et la Bible dit, il était intègre et droit, et sans doute le plus intègre de la terre à ce moment-là. D'ailleurs, c'est Dieu qui le dit, et Dieu ne se trompe pas. Verset 8, il dit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors, vous avez donc l'écrivain qui le dit dans le verset 1, et vous avez l'Éternel qui est cité en disant la même chose, et avec les mêmes termes. Ce serait quelque chose si on pouvait demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce qu'il dirait ça à notre sujet? Je n'ai pas la prétention de vous dire qu'il dirait ça à mon sujet. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Dieu l'a dit et Dieu sait toutes choses. Nous voyons dans Job chapitre 31, verset 1. Job évitait soigneusement le péché autant qu'il pouvait le faire. Et ça allait très loin. Job 31, verset 1 dit, Job dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Jésus va le dire aussi. Il va le dire dans le sermon sur la montagne. « Si un homme regarde une femme avec un regard de convoitise, il a commis un adultère dans son cœur. » Il ne l'a pas fait physiquement. Mais dans son cœur, il y a eu cette pensée. Et donc, pour Dieu qui voit les pensées, il dit, moralement, dans l'intention, c'est la même chose que de l'acte, même si, bien sûr, les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais il dit, non, je sais que je peux être sujet à la convoitise, donc j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai décidé de dire à mes yeux, vous êtes d'accord, vous ne regardez pas une personne pour la convoiter dans ton cœur. Il évite le péché autant que possible. Dans le verset 5 qu'on a lu tout à l'heure, Job chapitre 1, verset 5, Job fait des sacrifices pour chacun de ses enfants dans l'éventualité qu'ils auraient commis un péché. Vous parlez du principe de la prévention, principe de précaution qu'on a en France. Il prend des précautions extrêmes pour éviter toute trace de péché non confessé, non réglé, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de ses enfants. Il en avait 10. Quand ils ont fait la fête, verset 5, il les appelait et il leur demandait, il avait une petite examen de conscience avec eux, est-ce que vous avez dit une parole déplacée? Est-ce que vous vous êtes laissé enivrer par le vin? Est-ce que vous avez dit des paroles trop légères, pas à propos? Est-ce que vous êtes livré à des actes coupables, des actes un peu compromettants, des actes dont vous savez que ce n'est quand même pas l'idéal? Et même si ces enfants disaient, non papa, vraiment, on a été correct, on a observé les règles de moralité, il dit, bon, c'est pas grave, je vais faire quand même un holocauste pour toi. Au cas où tu aies oublié quelque chose, ou au cas où tu aies commis un péché dont tu n'étais pas vraiment conscient, je veux faire un sacrifice et je veux que ton péché soit expié. Il poussait cela très très loin. Dans le verset 22 du chapitre 1er, il a perdu tous ses biens et tous ses enfants le même jour. Et dans le dernier verset du premier chapitre, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans le verset 21, il fait preuve d'une étonnante philosophie que nous ferions bien d'adopter pour la nôtre. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est l'homme le plus riche de toute la vaste région où il habite. Et il réfléchit un peu. Qu'est-ce que j'ai apporté dans le monde? Je suis sorti du sein de ma mère, bébé, comme tous les bébés qui naissent. Qu'est-ce que j'avais? Mon petit corps de bébé. J'avais même pas un vêtement. Je n'avais pas un appartement. Je n'avais pas un morceau de pain. Je suis né sans rien. Comme tous les bébés naissent. Et il a dit, Dieu m'a donné énormément de richesses. Et maintenant, Dieu a enlevé tout ce qu'il m'a donné. En termes de comptabilité, les comptes sont équilibrés. Hein? Il m'a donné 3 millions, il m'a enlevé 3 millions, ça revient à zéro, j'ai commencé à zéro, je suis fini à zéro, les comptes sont équilibrés, je n'ai rien perdu, je n'avais rien, donc je ne peux pas être en déficit puisque je n'ai rien au départ. Je n'ai rien quand je finis, où est le problème? Quelle manière de regarder sa vie? Il a dit, c'est normal. Dieu m'a donné, celui qui m'a donné, il a le droit de me le prendre. Et là, il avait compris que ce que Dieu lui avait donné, il ne lui avait pas donné, il lui avait confié. Quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, ça veut dire vous en occupez, vous le protégez, vous le soignez, vous l'utilisez au besoin, mais je vous le confie, mais il n'est pas à vous, il est à moi. Donc, si je reviens et je dis, ce que je t'ai confié, tu me le rends, on lui rend, il n'y a aucun problème. Donc il dit, Dieu m'a donné, il m'a confié, mais il a le droit de tout reprendre. Rien ne m'a jamais appartenu. Tout a été resté entre ses mains. J'en ai eu la jouissance, mais pas la propriété. Donc si Dieu vient tout récupérer, ça ne crée aucun problème pour moi, dit Job. Ça c'est comme nous tous, nous devrions regarder les affaires matérielles que Dieu nous confie. Elles ne sont jamais à nous. Et puis, dans le chapitre 2, verset 10, si vous voulez, la vie sur la persécution prend un nouveau tour. Satan l'accable dans une maladie horrible, une maladie honteuse, des ulcères qui vous couvrent la peau, de la tête aux pieds. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un avec du pu qui sort des pores de sa peau et dire « Oh, mais tu dois vraiment être dans l'hygiène ». On va dire, mais quelle horreur! Mais lave-toi, mais je ne sais pas, moi. Tu as eu d'être tellement sale que tu as eu des maladies qui sont arrivées, des pustules qui sont arrivées partout sur son peau. Tu es dégoûtant. Et Job, quand il voyait comment il était dégoûté de lui-même. C'est une horreur absolue. Ça faisait très mal, c'était défigurant. On ne pouvait pas imaginer quelque chose de plus terrible. S'il avait une maladie comme le cancer à l'intérieur dont rien ne se voit, il aurait pu sauver les apparences, mais là, il ne pouvait rien sauver du tout. Les gens le voyaient. Pourquoi il reste là? Il devrait aller se cacher dans un coin. C'est horrible de voir cet homme. Donc, il y avait tout un côté de honte, d'opprobre, en plus la souffrance. Sa femme, elle est genre, j'en ai jusque-là. Je peux beaucoup supporter. Apparemment, elle n'a pas réagi quand il a tout perdu. Mais quand il était malade comme ça, dégoûtant à regarder, et on ne voyait pas de solution, elle dit, maudit Dieu, et meurt. Pas juste meurt, maudit Dieu, et meurt. Pourquoi tu m'as fait ça? Je me suicide. C'est même pas la peine de continuer à vivre. Tu vas pas vivre comme ça. La mort est préférable à ce que tu vis là. Et que dit-il? Verset 10, Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Là, il va un pas beaucoup plus loin que dans le chapitre 1, verset 22. Chapitre 1, verset 22, il a donné, il a ôté, voilà, je ne souffre pas, je suis né nu, je meurs nu, bon, mais il n'y a pas de problème, quoi. Mais là, maintenant, il souffre, une souffrance de tous les instants. Et là, il voit sa vie sous, encore sous un autre jour, il dit, voilà, depuis que je suis sur la terre, globalement, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait beaucoup de bien. Je vois toutes mes années où j'ai eu la bénédiction de Dieu. Que ça, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Bon, les comptes ne sont pas vraiment équilibrés. J'ai eu beaucoup de bénédictions. Et là, j'ai une malédiction. Pourquoi je me plaindrais? Comment je pourrais me plaindre? Comment je pourrais dire que c'est injuste? Est-ce que je pourrais dire à Dieu, tant que c'est bien, ça me va. Quand c'est mal, tu arrêtes là. Non. Il a le droit de me faire du bien. Il a le droit de me faire du mal. Alors on se dit, mais Dieu il ne veut pas nous faire du mal, il veut nous faire du bien. Oui, mais il a le droit de permettre des souffrances dans notre vie. Est-ce qu'on va dire à Dieu, je souffre, tu n'as pas le droit de me faire souffrir? Ah, mais si j'ai le droit de te faire souffrir, si je poursuis un plus grand bien. J'étais très touché, j'ai entendu une interview récemment de Johnny Erickson Tad, vous connaissez la quadriplégique, hein, cette dame, une héroïne de la foi. Hein. Mais elle a dit, quand elle était jeune fille, un frère lui a donné une phrase qui lui est restée, « Dieu parfois permet ce qu'il est, ce qu'il déteste, pour obtenir ce qu'il aime. » Donc Dieu n'est pas, il n'est pas cruel. Il n'aime pas voir souffrir les gens. Ça lui fait de la peine. Mais parfois, il permet la souffrance qu'il déteste parce qu'à travers cette souffrance, il y a un plus grand bien qu'il recherche et qu'il ne peut obtenir que par la souffrance. C'est-à-dire un mûrissement dans notre vie, une maturité dans notre caractère, une plus grande patience, un contentement à toute épreuve. Ces qualités-là ne sont pas naturelles pour l'homme. Ces qualités-là sont extrêmement précieuses. Elles coûtent très très cher. Et ne peuvent être obtenues que par des épreuves et la souffrance. Et donc comme le Seigneur est intéressé surtout par notre maturité, notre sanctification, notre croissance, notre ressemblance à Christ, s'il faut passer par des choses que lui n'aime pas, la souffrance, et ne les inflige pas volontiers. Il le dit souvent, je n'inflige pas volontiers les hommes, ce n'est pas ce que j'aime faire. Ça ne me fait aucun plaisir de voir souffrir des gens. Mais cette circonstance, c'est pour amener cette personne encore beaucoup plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors Dieu n'hésite pas. Et Job semble avoir compris cela. On voit une étonnante maturité. Quand Dieu dit qu'il est intègre, il est intègre. Pour dire une telle phrase dans de telles souffrances, « Dieu m'a fait que du bien, il est tout à fait normal, je ne vois pas pourquoi je me plaindrai si Dieu permet le mal dans ma vie. » Il dit « Il en a parfaitement le droit. » Ça ne veut pas dire qu'il aimait. Ça ne veut pas dire qu'il a dit « Seigneur, pourquoi ?» Mais il a dit « Dieu a le droit de le faire. » Ça, c'est une leçon fondamentale pour chacun d'entre nous. Donc, il n'a jamais maudit Dieu, il n'a jamais mal parlé de Dieu. Vous allez dire, ouais, non, attends, il a dit, si je pouvais le trouver, oui, oui, mais plus loin, il dit, si je pouvais le trouver, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le trouver. Vous avez de la souffrance. Et même quand il a parlé ainsi et que ses amis ont dit, ouais, tu blasphèmes contre Dieu, attention, comment tu parles de Dieu, Dieu, lui, il n'a jamais pris offense. Dieu n'a jamais dit à Job, tu as mal parlé de moi. Il a dit, mon serviteur a bien parlé de moi et vous, vous avez mal parlé de moi. Donc, même quand on dit, Seigneur, mais c'est difficile, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger? Est-ce que je ne peux pas te toucher? Est-ce que tu peux me faire comprendre le pourquoi? Dieu ne se fâche pas avec ça. Il comprend la souffrance. Mais Job n'a jamais accusé Dieu. Il a donc, en revanche, pleinement exprimé sa souffrance et sa frustration. Parce que Job était frustré de ne pas comprendre la raison de ses épreuves. Sachant qu'il n'était coupable de rien devant Dieu. Et cette frustration est née en grande partie parce que ses trois fameux amis ont dit exactement ça. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Et si ce n'est pas un secret, un péché connu, c'est un péché secret. Et comme tu persistes à dire que tu n'as pas de péché secret, en plus tu es un fiafé menteur et Dieu a bien raison de te taper dessus. C'est un peu leur discours. Alors comment convaincre ces gens que vous êtes intègres quand ils vous soupçonnent d'être mauvais et la preuve qu'ils tiennent contre vous, c'est que vous souffrez, donc ça prouve que vous êtes mauvais. Comment le prouver à ces gens-là? Ils ne pouvaient pas arrêter la souffrance. Il était frustré à cause de ça. Et qu'il ne pouvait pas appeler Dieu pour témoigner en sa faveur. Pas à ce moment-là, il l'a fait plus tard. Donc, Dieu approuve son serviteur Job dans ce qu'il a dit pendant son épreuve. Regardez en Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » En quelque sorte, Dieu dit à ses amis, il dit, « Job, c'est vrai qu'il était frustré. » Dieu entendait cette frustration. Mais il a dit, « Il était droit. » Il était droit. Il reste, à travers toute l'épreuve et à la fin, Job reste, comme avant l'épreuve, le serviteur de l'Éternel. Il reste l'homme de Dieu de son époque. Et l'Éternel lui demande d'agir comme un intermédiaire, comme un intercesseur pour ses trois amis, pour que Dieu leur pardonne tous les propos mauvais qu'ils ont tenus à son encontre. Et il dit à Job de prier pour eux. Il dit à ses amis, écoutez, moi, vous m'avez vraiment scandalisé par ce que vous avez dit. Ce n'est pas bien ce que vous avez dit. Et je vous jugerai bien, mais je vais demander à Job de prier pour vous. Et si Job prie pour vous, je l'écouterai. Et s'il demande que Dieu vous pardonne, je vous pardonnerai à cause de lui. Mais ce n'est pas à cause de vous. Je le ferai pour mon serviteur, Job. Vous parlez d'une claque. Ces gens pensaient être face à un homme qui avait grandement péché contre l'Éternel et qui était trop fier et trop orgueilleux et trop blasphématoire pour l'avouer. Et l'Éternel intervient à la fin en disant, il n'y a que Job qui est propre dans l'affaire. Vous, vous êtes des hypocrites. Vous avez mal parlé de moi. Vous m'avez donné mauvaise presse. Vous ne comprenez rien à moi. C'est quelque chose. Alors, ça nous permet peut-être, quand on lit Job et qu'on dit, oulala, Job est allé fort là. Je pense que Dieu n'était pas content. Je crois que ça ne gêne pas trop Dieu quand nous exprimons notre souffrance et notre frustration. Tant que nous comprenons que Dieu a raison, de dire « je ne comprends pas », ça passe. Mais de dire « Seigneur, tu es cruel », ça c'est un jugement qu'on porte sur celui qui ne pêche jamais et qui n'est pas cruel. Quel était l'enjeu de cette épreuve? Quel était l'enjeu de l'épreuve de Job? Eh bien, les anges, aussi bien Lucifer et les anges rebelles que les anges saints et obéissants, les anges suivent avec un intense intérêt le développement du projet de Dieu depuis la création du monde. Pensez à ça un peu. Il y a de très nombreux anges. Il semblerait que Dieu les ait créés individuellement. Il n'y a pas de lien de parenté entre eux. Il n'y a pas de procréation entre les anges. C'est toute une classe d'êtres. Ils sont très nombreux, dont nous savons à peu près un tiers a suivi Lucifer. Donc eux, ils sont contre Dieu, quoi qu'il en soit. Et les deux autres tiers sont obéissants. Mais tous les anges suivent et regardent tout ce que fait Dieu et se posent des questions et essaient d'analyser. Ils sont très intéressés de voir comment Dieu opère les choses depuis qu'il a créé le monde. Ils sont très intéressés par ça. Et alors, ils sont très intéressés à regarder comment Christ a accompli la rédemption, comment il s'est incarné, sa vie sur la terre, ils ont tous été témoins de ça. Et puis, ils sont très intéressés à voir comment Dieu constitue une église autour de son Fils Jésus-Christ. Comment il rachète en Jésus-Christ l'humanité, comment il forme un peuple qui lui appartient volontairement, comment il a préparé un plan glorieux et éternel pour Christ et pour son épouse, ainsi que la Bible nous appelle. Ça les intéresse beaucoup. En Éphésiens 3, 9 à 11, il en parle, que les anges, les dominations célestes connaissent aujourd'hui la sagesse de Dieu, multicolore par l'Église. Et les anges essaient de comprendre les circonstances, les moments par rapport à notre salut. Donc, ils portent un intérêt intense. Hébreux 1, 14 nous dit que les anges saints, ceux qui sont obéissants à Dieu, exercent de la part de Dieu un ministère envers nous qui devons hériter du salut. Alors, vous avez des évangéliques aujourd'hui qui sont allés beaucoup plus loin, beaucoup trop loin. Ils disent, oui, vous savez, vous avez un ange gardien. Vous pouvez donner des ordres à votre ange gardien. Vous êtes un chrétien, vous êtes un fils du roi, le roi du ciel. Vous avez un domestique, c'est votre ange gardien. Dites-lui de faire des choses pour vous. Il faut qu'il vous obéisse parce que Dieu l'a envoyé pour être votre domestique. C'est faux. Nous ne sommes pas le patron d'un ange gardien. Dieu est le patron de tous les anges, il les utilise comme il veut. Et ces anges nous aident, mais ce n'est pas nous qui commandons, c'est Dieu qui commande. Nous bénéficions sans doute, sans le savoir, de leur ministère, mais nous ne pouvons intervenir en rien par rapport à leur activité. Et donc, ils suivent les répercussions du salut de Dieu dans notre vie. Ils sont très intéressés par cette histoire de sanctification. Ils regardent comment un pécheur reçoit Christ, il voit la conviction du péché, il voit l'œuvre du Saint-Esprit, il voit la personne qui se convertit, et puis il voit comment Dieu le modèle par l'Esprit peu à peu à la ressemblance de Jésus-Christ, parce que ça, ils ne connaissent pas. Les anges, ils ont été créés par Dieu, ils ont vu Dieu, ils connaissent Dieu personnellement, intimement, et puis avec toute cette lumière, Lucifer et ses amis ont décidé de s'affranchir de Dieu et de se dresser contre lui. Et donc, ils n'ont jamais revenu en arrière. Ils ne peuvent jamais avoir une nouvelle lumière. Lucifer ne va jamais dire, « Ah, mince, je me suis trompé. Je ne savais pas que Dieu est comme ça. » Il savait avant de pécher. Donc, il a péché en pleine connaissance et il n'a pas l'intention de revenir en arrière. Il ne reviendra pas en arrière. Et les anges saints qui ont décidé de le suivre, de lui obéir, n'ont aucune raison de revenir en arrière non plus. Donc pour eux, c'est clair. Mais ce qui est intéressant pour eux, et c'est, on les comprend, c'est de voir des gens qui sont sur le chemin de l'enfer, qui sont sous le jugement de Dieu, qui sont des pécheurs avec une nature pécheresse, se convertir et changer pour devenir peu à peu comme Jésus-Christ. Il faut dire que c'est quand même exaltant à regarder ça. Les croyants qui nous ont précédés, Hébreux 12, verset 1, suivent avec intérêt notre marche chrétienne. Il dit, nous avons un grand nombre de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, on a des saints des autres âges qui nous regardent vivre aussi et qui suivent nos épreuves et nos réactions. Satan, l'ami de Dieu, on le sait, par son orgueil. Lui, il pensait vouloir être l'égal de Dieu. Et il voulait surtout être digne d'adoration. Satan refuse de voir en Dieu le Créateur tout-puissant de toutes choses. Il ne veut pas le voir. Donc, il fait tout pour dérégler le plan de Dieu. Tout ce qu'il peut pour saboter le plan de Dieu. Et donc, il séduit Ève qui a entraîné Adam dans sa chute. Et pour convaincre Ève et pour séduire Ève, Lucifer a présenté Dieu comme un manipulateur qui cache des informations importantes. Et ce Dieu-là qui ne leur dit pas tout parce qu'il veut les asservir. Dieu veut les manipuler, Adam et Ève. Il veut les garder sous sa coupe et sous sa domination. Et Lucifer de dire, mais vous comprenez pourquoi il vous a défendu ce fruit. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais si vous le mangez, vous serez comme lui. Vous allez déjouer ses stratégies. Vous allez découvrir sa manipulation. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle tombe dans le panneau et dire, au fait, bah oui, moi je vais manger, j'ai le droit quand même. Fais ce que je veux. Et donc Satan propose de libérer Adam et Ève des règles de Dieu pour qu'ils deviennent eux-mêmes des dieux. Satan lui-même voulait être un dieu. Il voulait recevoir l'adoration. Alors il attaque tout de suite le premier couple pour dire, vous pouvez aussi être des dieux. Et c'est tout à fait curieux qu'aujourd'hui, par beaucoup de religions, et religions orientales en particulier, on dit « cherchez le divin en vous ». Même dans le langage courant, vous êtes là, je récupère vos énergies, ça fait du bien. Alors on est des gens qui sortent des énergies, n'est-ce pas, magnétiques, dans le cosmos. On est quoi? Ben, on est des petits dieux finalement. C'est le rêve de l'homme d'être Dieu. Alors, Dieu et Satan, c'est Dieu lui qui propose, on va examiner un peu scientifiquement la foi d'un homme profondément attaché à l'Éternel, Job. Dieu lance le défi en quelque sorte. Dieu sait comment il raisonne, Lucifer, il a créé, il sait comment il raisonne. Quand il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, craignant Dieu, se détournant du mal, contrairement à toi. Mais c'est l'ancien défi. Et Satan, évidemment, il comprend, il entre dans le défi. Oui, mais bon, tu l'as quand même un peu acheté, ce Job. On ne peut pas dire qu'il te sert pour rien. De toute façon, il ne te sert pas parce qu'il t'aime. Il ne te sert pas parce que tu en es digne. Il te sert parce que tu l'as acheté. Attends, c'est l'homme le plus riche de la terre quand même, du moins dans cette région de la terre. Alors ça lui rapporte de te craindre. Quoi de plus normal? Mais tu lui enlèves ses possessions, il te maudit en face. Tu peux me faire confiance. Comme ça, vraiment, vous savez, Satan n'a aucun respect pour Dieu, donc il lui rentre dedans, tac ou tac. Et Dieu dit, bon, ben, on va voir. C'est Dieu qui est souverain. Lucifer sait qu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Il le sait. Et Dieu lui dit, tu peux prendre toutes ses possessions, mais tu ne toucheras pas à lui. OK. Dieu lui a relevé le défi. Il a parlé de ses possessions. Si tu enlèves ses possessions, il te maudira en face. Tu peux prendre ses possessions. Il a pris ses possessions. Normalement, Lucifer aurait dû en arrêter là. Il aurait dû dire, eh ben, écoute, t'as gagné. J'ai dit ça, j'étais persuadé qu'il te maudirait, t'as pas maudit, t'as gagné, bravo. Hein? Oui, mais Satan n'est pas comme ça. Il est tellement cruel et manipulateur. Et Dieu, tu vois, mon serviteur, il est resté intègre. Il a tout perdu, il est resté parfaitement intègre comme avant. Oui, mais, et vous voyez, Lucifer, c'est jamais fini avec lui. Oui, mais bon, il a la santé, hein? Hein? Qu'est-ce qu'on dit à la bonne année? Bonne année et surtout bonne santé. Parce que si vous tombez malade, on ne répond plus de rien. Hein? On devient méchant, on tape, on crie, on vocifère, on maudit Dieu. Donc, pourvu qu'on ait la santé comme ça, ça ira. Même les chrétiens. Moi, j'aime le Seigneur tant que j'ai la santé. Mais si je tombe malade, là, je ne sais pas. Dire, ah, la santé, c'est tout, hein. Mais s'il tombe malade, là, vraiment malade, il te maudira en face. Tu peux me faire confiance. Oui, tu as déjà dit ça. Tu as déjà perdu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Tu peux. Tu peux toucher son corps, mais tu ne le tues pas. Et il a fait tout sauf le tuer, croyez-moi. Tout sauf le tuer. Dieu et Satan sont en train de se livrer à un examen scientifique sur la foi d'un homme profondément attaché à Dieu. Et pour que ce soit un vrai examen, il ne fallait pas que le sujet de l'examen en connaisse l'enjeu. C'est ça qui est terrible. Nous, on sait pourquoi Job a été prouvé. Mais Job n'avait aucun moyen de le savoir. Il ne savait pas qu'il y avait cette discussion dans le ciel. Et pour vous et moi, ça peut être la même chose. Qui sait? Vous avez peut-être prié ce soir, Seigneur, surtout, si tu pouvais éviter de parler à Lucifer de combien je suis un bon chrétien. Je ne voudrais pas qu'on fasse un examen sur moi aussi. Nous ne savons pas ce qui se trame, mais nous savons que quand ça nous arrive, Dieu a donné sa permission. Quelqu'un dit, une épreuve pour sortir de l'antre même de Satan, mais il faut que ça passe sur le bureau de Dieu. Si Dieu l'approuve, souvent Dieu limite, en Corinthiens 10, 13, il limite, mais s'il signe, quand tel que lui, sa version va nous arriver. Mais c'est lui qui contrôle tout, et nous pouvons lui faire confiance. Dieu sait, ce qui est bien, c'est que Dieu sait tout à l'avance, ce que je pense ne pas être la capacité de Satan. Dieu sait comment ça se terminera et il sait à quel point il va récompenser richement son serviteur. Et l'épreuve peut commencer. Nous le verrons demain, mais lorsque Dieu intervient pour se révéler à la fin du livre, il ne parle que de la création. Que de la création. Pour nous rappeler que le Dieu créateur a un plan qu'il met en œuvre. Rien n'est laissé au hasard. Le Dieu créateur profite de cette situation dramatique pour enseigner une leçon que nous ne devons jamais oublier. Si notre univers et notre vie sont dus au hasard, je le répète, si notre univers et notre vie sont le résultat du hasard, nos vies et nos épreuves n'ont aucun sens. Aucun sens. Mais s'il existe un Dieu créateur de l'univers, de l'humanité et du temps, notre vie a un sens profond. Et notre raison d'être sur la terre, c'est de le glorifier en lui faisant confiance dans nos épreuves. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour les leçons multiples que tu veux nous enseigner par ton serviteur Job. Permets-nous de voir les enjeux, sans voir tous les enjeux, mais de comprendre les enjeux autour de notre vie. Nous sommes sous ta bonne main, rien ne peut nous arriver sans ta permission, et nous pouvons rester confiants que notre vie a un sens. Et quand tu touches nos vies, même en difficulté, notre vie, c'est pour avoir plus de sens et pour être un exemple pour quelqu'un d'autre et pour te glorifier d'une manière plus parfaite. Permets-nous de comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.